Je vous remercie. Donc, bonjour à tous. Donc, vous m'entendez bien très bien, je vous remercie. Alors, avant d'entamer mon propos, évidemment, je remercie l'Association française d'histoire économique, à commencer par sa présidente, Manuela Martini, mais aussi François Rivière, d'avoir bien voulu m'inviter à participer au séminaire d'aujourd'hui, à donner un bref éclairage sur la période médiévale et secondairement sur l'époque moderne, en d'autres termes, sur ce que l'on peut qualifier de crise d'ancien régime. Aussi, dans cette introduction, je m'attacherai à présenter quelques enjeux portant essentiellement sur les notions de crise et d'approvisionnement, un peu moins sur les finances publiques, vous comprendrez, je crois, pourquoi. Alors, il m'a paru plus évident de partir de la notion de crise et force est de constater que l'historien est parfois confronté à des signaux contradictoires. D'un côté, en effet, vous le savez aussi bien que moi, l'actualité est saturée par cette notion de crise. Pour s'en tenir aux années les plus récentes, on pense bien sûr à la crise financière de 2008, à ses suites, et de manière plus évidente et plus actuelle encore, à l'actuelle crise sanitaire qui, elle aussi, va avoir a déjà des prolongements économiques. Mais d'un autre côté, la nature foisonnante du concept le rend plus difficilement préhensible à tel point que certains historiens, par exemple médiévistes, développant une approche hypercritique, refusent toute scientificité au concept de crise. Pour autant, excuserez si j'enfonce des portes ouvertes, mais le concept de crise, en tant qu'il touche au rythme et aux périodisations, évidemment, reste quand même un outil fondamental pour les historiens. Alors, j'avais proposé dans le résumé que j'avais fourni de faire une brève enquête lexicale. Et donc, si on remonte à la racine du mot, on trouve un mot, évidemment, qui apparaît dans l'Antiquité, dans le grec, hein, le grec crisis, avec le sens qui est très important de décision ou de jugement. Il passe ensuite en latin, mais cette fois-ci avec un sens beaucoup plus restreint. Et il devient, notamment en français, au XIVe siècle, le moment décisif d'une maladie. Et c'est vraiment une acception médicale du terme qui l'emporte en ancien français. On comprend mieux dans ces conditions aussi la forte dimension psychologisante qui est encore attachée à la notion. Son pendant rationnel émerge au XIXe siècle et on commence à parler de crise politique, de crise financière ou encore de crise commerciale. Et cette crise, vous le savez, est finalement conceptualisée comme la phase d'un cycle répétitif et régulier prenant place entre croissance et dépression dans le cadre de la pensée économique classique. Et donc, en fin de compte, il y a deux tendances sémantiques qui se dégagent progressivement du terme « crise ». Tout d'abord, une dimension psychologique, comme je vous le disais, éventuellement catastrophiste, qui mène parfois à des formes de panique, voire carrément de paranoïa. On l'a vu encore avec la crise sanitaire, on a des rumeurs, des théories du complot, on a appris dans la presse qu'il y avait encore une part importante de la population qui rejetait les vaccins, etc., etc. Donc, d'une part, on a cette dimension psychologique, et d'autre part, on a la dimension savante, qui, évidemment, est très tributaire de l'économie capitaliste née au XIXe siècle. Et le plus dommageable, me semble-t-il, c'est l'effacement de la définition originelle du terme, car cet effacement enlève finalement la part de l'intervention humaine. Et donc, les collègues contemporanéistes sont évidemment plus compétents que moi, mais on voit bien l'enjeu intellectuel qui se cache derrière tout ça, puisqu'elle renvoie aussi à une pensée contemporaine qui pense l'économie comme fonctionnant ou devant fonctionner de manière finalement parfaitement autonome. Bien. Alors, il n'y a rien de tout cela dans les crises d'Ancien Régime. Alors, pour comprendre ces dernières, le jalon fondamental, évidemment, c'est celui qui est posé par l'école labroussienne. La crise d'Ancien Régime, telle qu'elle se donne à voir en Occident, jusqu'à la première moitié du XIXe siècle, c'est d'abord une crise de subsistance, et on connaît la forme canonique de cette crise d'Ancien Régime, c'est une crise de subsistance qui mène à une hausse des prix agricoles, à des troubles alimentaires, et puis ensuite à une baisse de la demande en produits artisanaux et industriels, et donc parallèlement à la baisse des prix industriels, à du chômage, chômage dans l'agriculture, et puis évidemment chômage dans l'artisanat et l'industrie. Et alors, je voulais, pour saisir un bon exemple médiéval des difficultés à interpréter la notion de crise et à interpréter surtout parfois les causalités de la crise, revenir sur ce qu'on appelle classiquement la crise du bas Moyen-Âge. Et j'entends par là, très schématiquement, le retournement de conjoncture économique qui intervient, selon les régions d'Occident, entre les années 1270 et 1320. Or, ce retournement, qui est incontestable, a fait l'objet d'importants débats qui, s'ils n'ont pas toujours réussi à fournir un cadre conceptuel pleinement satisfaisant, ont permis de nourrir la réflexion. Il y avait deux grands modèles qui se sont affrontés dans la seconde moitié du XXe siècle. Tout d'abord, le modèle du Britannique Postan, Michael Postan, qui lie étroitement la démographie à la crise économique. Et pour simplifier à outrance, le monde du XIIIe siècle, de la fin du XIIIe siècle, c'est un monde plein et cette surcharge démographique aurait mené à une insuffisance des productions. En réaction, on a eu un second modèle qui est marxiste, c'est le modèle de l'américain Brenner, transposé en France par le médiéviste Guy Bois, et un modèle qui voit comme principal facteur de la crise le gaspillage des prélèvements seigneuriaux et l'incapacité du cadre seigneurial à réinvestir dans l'appareil productif. Donc chacun de ces deux modèles a été critiqué, et si aucun modèle global n'est vraiment venu les remplacer, on a eu une nouvelle tendance ces dernières décennies. Alors, plusieurs tendances, d'une part sur un plan politique, le rôle moteur de la construction de l'État, j'y reviendrai ensuite, par la guerre et la levée des impôts qui sont de plus en plus lourds. Et si j'en reste sur le plan économique, la tendance est à l'étude notamment des circuits d'approvisionnement, et ces recherches ont été facilitées aussi par des travaux tout à fait actuels relatifs à l'économie, notamment des pays en développement, qui connaissent aussi des problématiques aujourd'hui qui correspondent à des problématiques anciennes en Occident. Donc, par exemple, il a été montré par les recherches d'Amartya Sen qu'on peut rejeter l'approche simpliste d'une crise alimentaire comme étant finalement la seule évaluation de la ressource alimentaire par individu. Sen théorise la notion de droit d'accès, rejoignant par là les travaux d'historiens qui s'intéressent à l'accès au marché, et on devrait même dire, pour la fin du Moyen-Âge et l'époque moderne, les marchés au pluriel et à leur régulation. Et donc, on sait que cette régulation des marchés est guidée dans les sociétés médiévales et modernes par la recherche du juste prix qui dépend étroitement de considérations morales et religieuses. Et là, on est en plein dans la thèse de l'économie enchâssée, de l'économie encastrée de Karl Polanyi. En revanche, il faut distinguer, particulièrement pour le Moyen-Âge, entre des pouvoirs urbains interventionnistes et des pouvoirs monarchiques, où la préoccupation est beaucoup moins évidente, hormis les interdictions d'exportation en temps de guerre. Donc, je ne suis pas moderniste, je ne veux pas commettre d'erreur, mais il me semble qu'il faut quand même attendre en France le XVIIIe siècle pour que l'État se préoccupe véritablement de l'approvisionnement, avec toutes les difficultés qui ont été relevées. J'avais donné Stephen Kaplan comme référence bibliographique, donc des difficultés rencontrées notamment sur le plan psychologique, puisqu'à l'époque, déjà, on parle évidemment de complots de famine, on assiste à la méfiance des paysans, notamment devant l'apparence des grains qui sont importés d'autres régions. Là aussi, il y a des formes de conspirationnisme. Donc, je n'ai pas parlé là des finances publiques, précisément parce que quand on considère les finances étatiques, on se rend compte que pour la fin du Moyen-Âge, pour la France en tout cas, ce n'est pas une préoccupation majeure. Donc, je laisserai aux historiens contemporanistes et modernistes le soin d'aborder cette question. Je suis désolé, j'ai fait très très court. Voilà.
Non, merci, c'est déjà une introduction qu'on aimerait commenter sur beaucoup de points, mais pour respecter notre vaste programme et ma contrainte de modérateur exigeant, je ne le fais pas et je vous redonne tout de suite la parole pour votre présentation sur les finances publiques, crise et essor des finances publiques dans la France du bas Moyen-Âge.
Merci.